VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, tout un plaisir d'être avec vous pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité en ce jeudi 30 juillet 2015. Jacques Aristide et Anne Albertson pour vous accompagner à la une ce matin au Congo-Brazzaville. Le peuple appelé à la résistance contre le changement de constitution en vue d'un éventuel troisième mandat du président Sassou Nguesso.
Et nous voulons dire au président de la République que la constitution qui régit notre pays, qui fait de lui président de la République, ne lui donne pas l'initiative de convoquer un référendum.
Au Niger, les élections présidentielles et législatives fixées au 21 février 2016.
École obligatoire en Côte d'Ivoire, prison et amende pour les parents réfractaires.
Ici aux États-Unis, un policier blanc inculpé de meurtre pour la mort d'un Africain-Américain.
Dans la partie magazine, la lumière ne se fera pas sur une fraude fiscale alléguée au Katanga en RD Congo.
Ils ont identifié effectivement le gros montant qui avait échappé au trésor, mais la mission a été brutalement interrompue, nous ne savons pas par qui.
Ne ratez pas non plus vos rendez-vous avec la Minute Éco et les sports.
Au Congo-Brazzaville, des opposants et quelques membres de la majorité réunis pour un dialogue politique ont appelé hier soir le peuple à résister pacifiquement au projet du pouvoir de changer la constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016. Selon l'AFP, les organisateurs du dialogue ont par ailleurs exigé la tenue dans les délais constitutionnels de la présidentielle de 2016 et réaffirmé leur opposition à la tenue d'un référendum pour déterminer si M. Sassou Nguesso peut ou non briguer un troisième mandat. Reportage depuis Brazza tout à l'heure en deuxième partie de cette émission.
L'élection présidentielle au Niger se tiendra le dimanche 21 février prochain, tout comme les législatives, annonce hier de la commission électorale, la CENI, au moment où l'opposition accuse la Cour constitutionnelle, qui doit valider les candidatures, d'avoir fait allégeance au pouvoir. L'AFP indique que le président de la CENI, le magistrat Ibrahim Boubé, a assuré que ce calendrier a été décidé par consensus et a été déjà transmis au gouvernement. Les opposants accusent le président Issoufou de provoquer des scissions au sein de leur parti, notamment un coup d'argent et de marché public pour assurer sa réélection l'an prochain. Mais pour les partisans du chef de l'État, ces crises sont dues à des problèmes internes à ces partis.
En Côte d'Ivoire, les contrevenants à l'école obligatoire risqueront la prison. Le projet de loi sur l'école obligatoire a été adopté hier par le gouvernement. Il prévoit une peine de prison de 2 à 6 mois et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 francs CFA pour les parents qui refuseront de scolariser leurs enfants âgés de 6 à 16 ans, rapporte l'AFP. La mesure doit entrer en vigueur dès la rentrée prochaine, d'après Bruno Conné, porte-parole du gouvernement ivoirien.
Toujours en Côte d'Ivoire, le directeur de publication du quotidien Aujourd'hui, dit proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été arrêté pour outrage au chef de l'État. Joseph Titi Nyangoura doit être présenté à un juge demain et devra s'expliquer sur un article mettant en cause le président Alassane Ouattara qui faisait la une du journal le 21 juillet, indique l'AFP. Le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire a qualifié cette arrestation d'atteinte grave à la liberté et réclamé la libération du journaliste.
Au Sénégal, le procès prévu de l'opposant et ex-ministre Amadou Sall a été renvoyé au 24 novembre. Selon l'AFP, l'ajournement a été attribué à la non-disponibilité de salle d'audience, de même qu'à une absence d'avocat de la défense. Amadou Sall est inculpé d'offense au chef de l'État et d'atteinte à la sûreté de l'État.
La Somalie progresse sur la voie de la démocratie malgré le report des élections. C'est l'avis de l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays, Nicolas Kay. Le gouvernement a renvoyé le scrutin après 2016. Pour cause d'absence de progrès politique et d'insécurité. Bagassi Koura.
Mercredi, le président somalien Hassan Cheikh Mohamud a déclaré à la VOA que son gouvernement n'est pas en mesure de tenir des élections au suffrage universel dans les circonstances actuelles. Selon lui, ces élections auront lieu sous une autre forme. Hassan Cheikh Mohamud. C'est le summum de la démocratie que tous ceux qui ont le droit de vote puissent voter. Mais il y a un grand fossé entre cela et notre situation actuelle, a déclaré le président Mohamud. On n'a jamais dit qu'une élection n'était pas possible. Il y a différentes étapes et différents modèles pour les élections et nous visons la meilleure option pour les prochaines élections. Mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur un format de transition en 2016. Le président Mahmoud ne veut pas que cela soit vu comme un échec de son gouvernement à honorer ses engagements. Nous n'avons jamais promis le suffrage universel ni d'installer des urnes dans chaque mètre du pays, a-t-il dit à la VOA. Cette annonce n'est pas une surprise selon Nicolas Kay, représentant de l'ONU dans le pays. Ce dernier assure qu'en Somalie, le chemin de la démocratie est là.
Le nombre d'infections hebdomadaires par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest a atteint son niveau le plus bas depuis plus d'un an. L'Organisation mondiale de la santé s'en félicite, mais exprime son inquiétude pour la Sierra Leone, Rachid Bouda.
Le dernier rapport hebdomadaire de la dite organisation affirme qu'il n'y a eu que 4 cas confirmés en Guinée et 3 en Sierra Leone dans la semaine du 20 juillet. Elle attire néanmoins l'attention des populations sur un risque de transmission lié à un patient en provenance de Tonkolili, diagnostiqué positif après sa mort dans un hôpital de Freetown. Par contre, la situation est meilleure au Liberia, où jusque-là, rien n'est à signaler depuis la brève réapparition du virus le mois passé. Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a proposé dimanche un plan de relance post-Ebola pour redresser l'économie, la santé, l'éducation et éradiquer le virus dans son pays. Cette alternative fait suite au sommet du 10 juillet à New York, au cours duquel les 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia, ont reçu un financement de 3,4 milliards de dollars.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Inde, Yakup Memon, un des cerveaux des attentats de Mumbai en 1993, a été pendu ce matin après le rejet par le président indien Pranab Mukherjee d'une demande de sursis.
Ici aux États-Unis, un policier blanc a été inculpé hier de meurtre pour la mort d'un Africain-américain. Sam Dubose a été abattu lors d'un contrôle routier dans l'Ohio le 19 juillet dernier. Selon le procureur chargé du dossier, il s'agissait d'un acte insensé motivé par la colère. Michel Joseph.
En effet, le procureur Joseph Dieters a expliqué à la presse que le policier n'avait pas affaire à quelqu'un qui était recherché pour meurtre, mais plutôt à quelqu'un qui avait une plaque d'immatriculation manquante. Monsieur Dieters a ajouté: c'est en langage fleuri une interpellation assez pourrie. S'il commençait à partir en roulant, sérieusement, laissez-le partir. Vous n'avez pas à lui tirer dans la tête. Le policier, un certain Ray Tanzing, 25 ans, avait déclaré aux enquêteurs avoir tiré parce que, en prenant la fuite en voiture, la victime de 43 ans l'avait entraîné dans la course. Mais le visionnage des images de la caméra du policier a révélé qu'en réalité, il n'avait jamais été en danger. Plusieurs bavures policières au cours desquelles des policiers blancs ont tué des hommes noirs non armés ont ravivé depuis un an les tensions raciales ici aux États-Unis, entraînant des manifestations qui ont dégénéré parfois en émeutes et relancé le débat sur la violence policière, en particulier parce que la plupart des policiers n'ont pas été poursuivis.
L'ONU a revu à la hausse sa projection d'augmentation de la population mondiale. Selon un rapport publié hier, la planète comptera plus de 11 milliards d'habitants en 2100. Le point avec Camille Gros-Didier.
Il y a seulement 25 ans, en 1990, la Terre ne comptait que 5,3 milliards d'êtres humains. Ils sont aujourd'hui 7,3 milliards et seront 11,2 milliards en 2100, affirme le rapport sur les perspectives d'évolution de la population mondiale de l'ONU. Fait marquant, un petit nombre de pays, surtout en Afrique et en Asie, seront responsables de la croissance démographique d'ici le milieu du siècle. Entre 2015 et 2050, la moitié de la hausse de la population mondiale sera concentrée dans 9 pays. Inde, Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, Tanzanie, États-Unis, Indonésie et Ouganda. Dès 2022, l'Inde va dépasser la Chine pour devenir le pays le plus peuplé de la planète. Et en 2050, le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé du monde. D'ici à la moitié du siècle, 6 pays vont dépasser les 300 millions d'habitants: Chine, Inde, Indonésie, Nigeria, Pakistan et États-Unis. La hausse de la population est due à la baisse de la mortalité infantile, mais également à la prolongation de l'espérance de vie dans le monde. Elle est passée de 65 ans à la naissance à partir de 1990 à 70 ans depuis 2010 et va encore s'améliorer.
L'actualité économique en Afrique, c'est l'heure de la Minute Éco que nous présente ce matin Nathalie Barge.
L'Égypte a assuré que la nouvelle voie du canal de Suez offrait une navigation sécurisée à tout type de navire. Une annonce faite mercredi par le directeur de l'autorité du canal, Moab Mamish, à Ismaïla, au siège de l'institution, rapporte l'AFP. Construite en un an, la seconde voie de 72 km permettra une circulation à double sens. L'inauguration est prévue le 6 août en présence de plusieurs chefs d'État. Les autorités souhaitent développer la zone pour en faire un centre commercial et industriel qui offrirait notamment des services pour les flottes commerciales. La filiale burkinabé du groupe Bank of Africa a mis en place à Kossodo un centre des affaires dédié aux entreprises, indique l'APA. L'objectif de la BOA Burkina est de renforcer le partenariat avec le monde des affaires tout en attirant de petites et moyennes entreprises. Avec près de 250 000 comptes et un capital de 11 milliards de francs CFA, c'est la troisième banque du pays après Ecobank et Coris Bank. La banque marocaine du commerce extérieur détient plus de 55% des actions de la BOA. Dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, le gouvernement sénégalais s'est engagé à utiliser pour 2016 la plateforme Boost de la Banque mondiale, permettant l'accès aux données budgétaires. L'annonce a été faite mercredi à Dakar par Cheikh Tidiane Diop, secrétaire général du ministère des Finances, lors de la conférence internationale sur cette plateforme Internet. 13 pays africains francophones ont pris part à la conférence sur l'initiative Boost dans la capitale sénégalaise.
Et maintenant, les nouvelles sportives, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Sans surprise, Michel Platini veut diriger le football mondial.
Le Français se lance dans la course à la présidence de la FIFA. L'ancien joueur de 60 ans a officialisé sa décision dans une lettre aux 209 fédérations membres de la FIFA. Il y a des moments où vous devez prendre votre destin en main. Je suis arrivé à l'un de ces moments décisifs, a écrit l'ancien triple Ballon d'Or, ajoutant vouloir rendre à la FIFA sa dignité et la position qu'elle mérite. Empêtré dans un scandale de corruption, la FIFA élira le 26 février prochain le successeur de Sepp Blatter et Platini, président de l'UEFA, est vu comme le grand favori de cette élection.
Candidature de Platini qui a été taclée.
Violemment attaqué par un autre candidat potentiel, le prince Ali bin al-Hussein, qui a dénoncé la culture des arrangements en coulisses. Platini n'est pas bon pour la FIFA, la culture des arrangements en coulisses en sous-main doit prendre fin, a estimé le prince Ali, demi-frère du roi Abdallah II dans un communiqué. Le prince jordanien Ali bin al-Hussein, Jacques, vous vous souvenez, il avait été battu par Sepp Blatter en mai lors de la précédente élection.
Bonne nouvelle pour l'équipe ivoirienne de football.
L'équipe féminine du Zimbabwe, qui ne s'est pas présentée à un match de qualification pour le tournoi olympique des Jeux 2016, a perdu la rencontre par forfait 3-0 contre la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé la FIFA dans un communiqué. Les qualifications de la Confédération africaine de football pour les Jeux de Rio 2016 se déroule en 4 tours. Les deux meilleures équipes se qualifient directement pour le tournoi olympique de football féminin.
Que se passe-t-il, Nicolas, dans le monde des transferts ?
Oui, on en parlait hier. Le milieu international français Abou Diaby, laissé libre par le club anglais d'Arsenal, s'est officiellement engagé avec Marseille. L'OM, qui ne donne aucune précision sur la durée du contrat signé avec le joueur, avait déjà annoncé un accord de principe avec le milieu qui évoluait à Auxerre avant de fouler les pelouses de la Première Ligue. Et puis parlons également d'Issa Mampeko, signataire d'un contrat de 5 ans en faveur du tout-puissant Mazembe. Le latéral droit international congolais a rejoint ses nouveaux coéquipiers à l'entraînement cette semaine. Je vous rappelle qu'Issa Mampeko a joué aussi au Dari Club Motemba Pembe, à l'AS Vita Club et au Kabou Sport, le club angolais.
Et puis, l'Amérique aura bien une ville candidate pour les JO.
Le comité olympique des États-Unis s'est engagé à déposer une candidature d'une ville américaine après le retrait de la candidature de Boston. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré à Kuala Lumpur que le comité américain avait promis une candidature. La ville du Massachusetts, souvenez-vous, avait renoncé lundi à sa candidature aux Jeux olympiques d'été 2024, faute d'adhésion de la population. Le comité olympique américain pourrait désigner Los Angeles. Les États-Unis n'ont pas accueilli les Jeux d'été depuis ceux d'Atlanta, c'était en 1996, et ceux d'hiver, c'était en 2002 à Salt Lake City.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide avec vous et c'est donc parti pour la tranche magazine du Monde aujourd'hui. En République démocratique du Congo, une enquête sur des malversations douanières et fiscales présumées a été suspendue de manière abrupte. L'affaire mettait en cause des compagnies minières opérant dans la région du Katanga ainsi que les agences douanières locales. Le montant total des fraudes alléguées est estimé à plus de 3 milliards de dollars. Depuis Kinshasa, le reportage de Nick Lang, présenté ici par Eddie Sango.
Il s'agit d'une enquête sur les allégations d'une fraude sur une période de 4 ans, soit de 2009 à 2013, concernant les services de douane dans la province du Katanga, riche en minerais et pourvoyeuse pour les restes de l'économie du pays. La semaine dernière, Mushizi Kizito, parlementaire de l'opposition, a demandé qu'il reprenne les investigations sur les dites allégations. Joint par VOA Afrique, il a expliqué que l'enquête a été ouverte en 2013 après que le ministre de la Communication a été informé des dénonciations concernant ses services.
Je ne sais pas exactement qui a dénoncé quoi, mais il a eu des informations selon lesquelles il y avait une grave corruption, une grave perte d'argent du trésor public à la DGDA Katanga. Et il a initié une lettre pour sa collègue de la justice.
Kizito dit ne pas savoir qui a dénoncé quoi, mais qu'il y a eu des informations faisant état des graves corruptions et fraudes et que le ministre Mende a envoyé une lettre à ce sujet au ministère de la Justice. Ceci a poussé les procureurs de la République à envoyer une équipe d'enquêteurs dans les Katanga en septembre 2013. Selon Kizito, l'équipe a récupéré quelques 700 millions de dollars américains en seulement 10 jours en termes de douane et autres taxes non payées. Cependant, l'équipe a été rappelée à Kinshasa avant d'avoir examiné la plupart des documents se rapportant à la période, a indiqué Kizito. M. Mende a confirmé qu'il avait initié la mission d'enquête.
Je ne sais pas s'ils ont récupéré de l'argent. Ils ont identifié effectivement de gros montants qui avaient échappé au trésor, mais la mission a été brutalement interrompue, nous ne savons pas par qui. Donc c'est quand même un dossier qu'il serait intéressant de reprendre.
M. Kizito soutient pour sa part que les enquêteurs ont récupéré plus de 700 millions de dollars, mais il précise que ce montant était inférieur à ce qui devait être recouvré.
C'est évalué à plus de 3 milliards de dollars. Les entreprises concernées sont au nombre de 279. Il y a des entreprises dans le secteur des mines, dans le secteur des boissons, dans le secteur des services, l'import-export, donc toutes sortes d'entreprises.
Les 3 milliards de dollars auraient bien pu grossir les budgets annuels de l'État qui s'élève à près des 8 milliards de dollars, selon Kizito qui estime qu'il y aurait une fraude de la même échelle dans d'autres provinces. Pour M. Kizito, les montants des 3 milliards seraient constitués d'évasion fiscale légale réalisée par les billets des transferts des prix et d'autres moyens plutôt que d'évasion fiscale illégale proprement dite. M. Kizito regrette qu'il n'y ait pas eu de poursuites judiciaires dans cette enquête première du genre dans le pays. François Katinde de l'ASADO, ONG de défense des droits de l'homme, a aussi confirmé que les montants étaient recouvrés.
Une liste d'une dizaine d'entreprises à mon bureau qui avaient procédé au paiement.
Selon M. Katende, 10 entreprises se sont acquittées après que son ONG a publié les dossiers. Il soutient aussi que plus de 700 millions de dollars ont été récupérés auprès de 2 entreprises. Personne n'a été en mesure de dire qui a ordonné la suspension de l'enquête. Les montants devant être recouvrés n'est pas non plus connu.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Cap à présent sur le Burundi, où le parti présidentiel demande à la communauté est-africaine, médiatrice de la crise politique dans le pays, de comprendre le besoin de réviser la constitution. Pour le CNDD-FDD, il servira à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais beaucoup sont sceptiques. Depuis Bujumbura, le compte-rendu de notre correspondant Christophe Kurunziza.
Pour le président du parti CNDD-FDD, Pascal Nyabenda, le respect des principes de démocratie, de liberté, de transparence et d'élection inclusive doit être le leitmotiv de tous les acteurs politiques burundais. Dans ce message envoyé aux pays de la communauté est-africaine, la communauté internationale devait aider le Burundi dans sa quête vers la recherche de liberté en acceptant que la constitution soit amendée pour que même la coalition Amizero ya Barundi puisse participer au futur gouvernement de l'Union nationale. Le porte-parole du parti parti présidentiel, Gélaz Ndabirabe.
Parler de gouvernement d'union nationale sans changer la constitution, ce n'est pas possible. Mais comme nous avons déjà dit, la communauté pays d'Afrique de l'Est pourrait aider en ce sens pour débloquer cette question. Au cas où, par exemple, elle ne répondrait pas favorablement, peut-être donc on va envisager d'autres possibilités, mais tout cela donc devra se passer à l'intérieur donc de l'hémicycle pour s'entendre donc comment les choses vont se passer.
Mais pour les autres formations de l'opposition, l'urgence n'est pas à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais plutôt des élections crédibles où tout un chacun se reconnaît, le sénateur Emmanuel Ngengurutse.
Il n'appartient pas à la communauté est-africaine de demander la constitution d'un pays souverain qu'est le Burundi. Même si nous sommes à l'intégration régionale, ce n'est pas une union politique. Ce n'est pas encore ça. Donc, il appartient au Burundi même, comme ils l'ont fait auparavant, de pouvoir mettre en place une nouvelle constitution conforme aux intérêts de tout le monde. Pour pouvoir l'obtenir, il faut qu'on réorganise des élections libres, apaisées, inclusives, pour pouvoir aboutir à un gouvernement démocratique qui, par définition, conformément à notre constitution, est un gouvernement d'union nationale.
Les partis politiques de l'opposition avaient boycotté toutes les élections communales, législatives et présidentielles. Ils affirment que les accords d'Arusha et la constitution ont été violés par ceux-là même qui devaient faire respecter ces textes fondamentaux. Les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine demandent urgemment la reprise du dialogue pour résoudre toutes les questions qui ont été mises à la table lors du début de dialogue amorcé par le président ougandais Yoweri Museveni. Christophe Kourounziza, Bujumbura, pour la Voix de l'Amérique.
Autre pays, même intention d'amender la Constitution, nous vous en parlions un peu plus tôt, au Congo-Brazzaville. L'opposition a conclu hier soir son dialogue alternatif, appelant le président Denis Sassou Nguesso à ne pas convoquer un référendum pour changer la Constitution. Le dialogue de Brazza est intervenu après celui de Sibiti, où les participants, essentiellement issus de la majorité, étaient eux tombés d'accord pour modifier la loi fondamentale. De la capitale congolaise, Nguela Nguessou.
Après 3 jours de concertation, les opposants gardent de ces travaux une seule ligne directrice, le non-changement de la Constitution. Gilda Mounsara, participante et porte-parole de la plateforme qui lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel.
Nous avons relevé là un grand défi, réunir aujourd'hui toutes les grandes figures de l'opposition pour dire ensemble non au changement de la Constitution parce que nous pensons que c'est pour nous une grande réussite. Ça a été pour nous une occasion de réitérer notre position, de dire que nous sommes contre le changement de la Constitution, simplement parce que ça va à l'encontre des dispositions de la Constitution du 20 janvier 2002. Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour le respect des principes de la démocratie et donc normalement, la limitation du nombre de mandats. Et nous voulons dire au président de la République que la constitution qui régit notre pays, qui fait de lui président de la République, ne lui donne pas l'initiative de convoquer un référendum.
Guy Romain Kimfoussia, président de l'UDR Mouina et doyen d'âge du présidium de ce dialogue, n'a qu'une seule parole à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso.
Il a intérêt à nous réserver une bonne suite. Sinon, il sera rattrapé par tous ceux des gens qui ont le discernement et le sens de l'État pour lui recommander nos recommandations. À l'opposé des conclusions qui sont sorties de Sibiti, dont M. Sassou devra faire un tri en fonction de ses intérêts. Et nous connaissons ses intérêts. Il a profité de ce hiatus de Sibiti pour justifier d'un manque de consensus et recourir à ce qu'il appelle un référendum. Or, il n'en a pas le droit. Nous le mettons en garde contre cela.
Les jeunes, venus nombreux à ce dialogue alternatif, appellent à l'alternance politique.
L'acte que veut poser le président de la République consiste à conserver le pouvoir et ça emprisonne notre démocratie. Voilà pourquoi nous sommes là, pour lutter pour la libération de la démocratie.
La moisson ainsi obtenue sera transmise au président Denis Sassou Nguesso pour qu'il en tire la conséquence. René-Serge Blanchard-Aubin, porte-parole de ce dialogue alternatif, précise le mécanisme choisi par l'opposition.
Nous ne contestons pas l'existence de l'État ni l'autorité des pouvoirs. Ah non, pas question. Nos résultats, nous les transmettrons au président de la République via, nous avons un ministère qui s'occupe des partis politiques, via ce ministère, nous transmettrons les résultats à Monsieur le président de la République.
Nguela Nguessou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Douze 13 milliards de francs CFA, c'est ce que le gouvernement gabonais va verser chaque mois à 90 000 employés de la fonction publique. La mesure fait partie d'une réforme des salaires décidée par le président Ali Bongo. Reportage à Libreville de notre correspondant Jean-Rovis Dabani.
Écran plat, parabole satellite, ordinateur portable, l'intérieur de la maison de Sylvestre Tengue est loin de clichés véhiculeux sur le Gabon. Son emploi dans la fonction publique ne permet pas au jeune homme de 37 ans de joindre le deux bouts. Il ne fait donc pas partie des classes les plus aisées du Gabon. Avec un salaire de base avoisinant de 200 000 francs CFA par mois, Sylvestre Tengue fait partie des 90 000 fonctionnaires qui ont bénéficié depuis la semaine dernière d'une augmentation de salaire de 30%.
J'ai été au guichet cette fin de mois et nous avons constaté une légère augmentation. Est-ce que cela satisfait réellement les attentes des Gabonais, dans la mesure où le bailleur là-bas va augmenter son loyer et les prix des produits alimentaires vont également être augmentés. On attendait beaucoup, mais bien que ça, il y a eu une légère augmentation. Certainement, ils vont revoir ça après.
La réforme des salaires est en débat depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo, qui souhaitait assurer un revenu suffisant aux fonctionnaires. Pour Jean-Marie Ogandanga, le ministre de la fonction publique, ce système répond, je cite, à une nécessité impérieuse.
Équitable, c'est qu'il savait qu'il y avait une iniquité quelque part. Or, lui, c'est le président de tout le monde qui veut que tout le monde trouve son compte à travers son travail.
Son collègue du budget, Christian Magnagnan, s'étaque d'avoir réalisé un pari.
On traduit ici la haute instruction du chef de l'État qui veut que les Gabonais, évidemment, se sentent mieux, que les Gabonais soient heureux, notamment les fonctionnaires. Il s'agit bien sûr de veiller à ce que les 30% en moyenne d'augmentation que l'État vient d'accorder en termes d'augmentation des salaires aux agents publics, évidemment que cet avantage soit préservé.
L'ancien régime de paye, vieux de 40 ans, est la cause des nombreuses contestations dans ce pays d'Afrique centrale où, selon la Banque mondiale, 33% des 1 800 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Cette année, la masse salariale sera plafonnée à 624 milliards de francs CFA et profitera à 90 000 agents de l'État contre 480 milliards de francs CFA l'année dernière. Certains observateurs considèrent déjà qu'il s'agit d'un message adressé aux Gabonais en prévision de l'élection présidentielle de 2016. Faux, répond un proche d'Ali Bongo contacté par VU Afrique. Alors que la réforme fait l'objet d'un projet de loi qui sera présenté au Parlement dans les tout prochains jours, les syndicats, eux, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VU Afrique.
Plein feu maintenant sur la visite de deux jours qu'a entamé hier le président Mohamedou Bouhari au Cameroun. Tout comme lors de son passage à Niamey au Niger, N'Djamena au Tchad, le leader nigérian discute de la coopération régionale dans la lutte contre Boko Haram. Pour un éclairage sur la dimension camerounaise de ce dossier, Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur Eric Mathias Owanangwini de l'université Yaoundé 2.
Il s'agit pour le nouveau leader nigérian de discuter directement avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, de manière à évaluer l'ensemble des relations Cameroun-Nigéria. Bien entendu, l'un des points est la crise sécuritaire attachée à l'action de Boko Haram dans le contour du lac Tchad et de la manière dont les deux pays associés au Tchad et au Niger pourraient coopérer pour lutter contre ce phénomène d'insécurité.
Jusqu'ici, les soldats camerounais sont contraints de se limiter à opérer sur leur territoire national contre Boko Haram. Qu'est-ce que le Cameroun attend de ce côté?
Je pense que le Cameroun attend surtout une intensification des échanges d'informations et de renseignements et peut-être un accord autour de mécanismes de coordination qui pourraient favoriser une stratégie commune de lutte contre Boko Haram. Le point spécifique du droit de poursuite est un point très controversé parce que le Nigeria, sous le président Goodluck Jonathan, avait sollicité du Cameroun un droit de poursuite qui lui avait été refusé, ce qui faisait que quand Boko Haram a commencé à agir contre le Cameroun, il était extrêmement difficile pour les autorités camerounaises de demander au Nigeria de leur accorder un droit de poursuite qu'elles avaient refusé à celui-ci.
Le professeur Eric Mathias Owanangwini de l'université Yaoundé 2. Voilà, point final à cette édition du Monde. Aujourd'hui, Anne Albertson a dirigé la mise en onde. John Ellison a assuré la partie technique. Pour vous accompagner, c'était Jacques Aristide. Depuis Washington, nous vous souhaitons un excellent jeudi. À demain matin. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.